Peu avant la Pâque juive, Jésus entre à Jérusalem. Quelle joie de monter à Jérusalem! Ils y montent pour célébrer la Pâque. La foule se réjouit. Elle est remplie d'allégresse. Jésus, quant à lui, ne partage pas tout à fait les mêmes émotions. Il est bien évidemment dans la joie parce qu'il est Dieu. Mais cette joie est mêlée de gravité. Il a à plusieurs reprises annoncé à ses disciples ce que représente Jérusalem pour lui. La ville de la passion. Jésus fut acclamé comme un roi par les habitants de la cité de David. Il lui déroule le tapis rouge. Il forme une magnifique parade pour accueillir cet invité si prestigieux. Peu après, Jésus est condamné à mort comme malfaiteur. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, fête qui fait partie du calendrier liturgique chrétien. C'est une célébration à double tranchant. D'un côté glorieuse, avec l'entrée triomphale de Jésus dans la ville trois fois sainte, et en même temps douloureuse. Pâques englobe les événements qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus. La célébration des Rameaux marque ainsi l'entrée de la semaine sainte. C'est surtout une fête catholique. Elle est assez méconnue dans les milieux évangéliques. Je pense qu'elle vaut la peine d'être plus connue. Cet événement, marquant, marque et marqué dans la liturgie chrétienne, nous prépare à entrer dans la semaine de la Passion. Les Rameaux nous invitent à nous arrêter, à prendre mieux conscience des événements qui ont suivi. Le calvaire et la mort de Jésus-Christ, mort pour mes péchés, mort pour tes péchés. Romains 5, 8 à 9. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La célébration des Rameaux permet et conditionne un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps pour méditer, un temps de pardon et de réconciliation, un temps pour remettre nos vies et tout ce qui nous habite entre les mains de Dieu et les perspectives de Dieu, un temps pour nous focaliser tout à nouveau sur l'essentiel. J'invite Patricia à venir nous faire la lecture de Marc 11, 1 à 10.
Marc 11, 1 à 10. Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera partir. Les disciples partirent et trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus. Et Jésus s'assit. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. »
Merci beaucoup, Patricia. L'entrée de Jésus à Jérusalem dévoile plusieurs divergences, malentendus, désaccords ou encore de la confusion, que ce soit avec les disciples, mais également avec la foule. Prenons d'abord les disciples. À trois reprises, Jésus annonce sa mort sur la croix et les disciples répondent tout à fait à côté de la plaque. Ils n'ont absolument pas compris et saisi ce que Jésus dit. Ou peut-être ne veulent-ils pas comprendre. Commençons par premier verset, Marc 8, 31. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. C'est l'apôtre Pierre qui répond. Quelle est sa réaction? Il lui fit des reproches et balaya instantanément les paroles de Jésus. « Ne parle pas de ta mort, Rabbi. Ça ne se fait pas. C'est un sujet tabou. Mais pense à ta réputation. Tu ne peux pas dire ça. » Le deuxième texte se trouve en Marc 9, 31. Il enseignait ses disciples et il leur disait « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Ici, c'est les disciples qui répondent. On ne sait pas exactement lesquels. Quelle est leur réaction? Ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Alors, ils changent de sujet. C'est tellement plus facile. Ils préfèrent le nombrilisme. Ils parlent de hiérarchie entre eux. Qui sera le premier d'entre eux? Et le troisième passage se trouve en Marc 10, 32b à 33. Jésus prit de nouveau les douze avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. C'est Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui prennent la parole. Comment réagissent-ils? Sont-ils choqués? Ahuris par ce qu'ils entendent? Non. Ils comprennent seulement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent comprendre. Ils demandent à Jésus de leur réserver une place d'honneur quand il sera dans sa gloire. Ils pensent qu'à leur intérêt, être son bras droit, être connu et reconnu. Dans chaque épisode relaté, les disciples entendent seulement ce qu'ils peuvent entendre. Ils ne comprennent pas grand-chose, tout comme nous aujourd'hui. C'est bien au-delà de leur compréhension. Ils sont incapables de saisir ce que Jésus dit. Ils sont encloisonnés dans leur perspective et leur vision du monde. Ils s'attendaient à un roi conquéreur, un roi libérateur qui viendrait les libérer de l'oppresseur. À l'opposé des attentes reçues, véhiculées, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Comment aurions-nous réagi à leur place? La foule. Ils étaient nombreux, ceux qui étaient venus accueillir Jésus. Mais pourquoi? La réponse se trouve en Jean 12, 17 à 19. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que tout le monde se met à le suivre. » La confusion et le malentendu des rameaux se manifestent clairement avec l'ânon et les vêtements. L'ânon. Jésus avait imaginé et préparé consciencieusement sa rentrée à Jérusalem. Il avait pensé à chaque détail. Il avait donné aux disciples des instructions bien précises pour préparer son entrée à Jérusalem. Il savait exactement où trouver l'ânon et il savait précisément ce qu'il devait répondre si quelqu'un leur demandait pourquoi est-ce qu'il le prenait. Tout était bien organisé et sous contrôle. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi d'entrer à Jérusalem sur un ânon et un anneau que personne n'avait encore monté? Imaginez la scène. Jésus assis sur l'ânon et la foule qui l'acclame. Franchement, ce n'est pas vraiment un signe d'humilité. Vous ne trouvez pas? Eh bien si. Cela montre la largeur, l'ampleur et l'humilité du roi des rois. Jésus, en acceptant d'entrer de cette manière à Jérusalem, a accompli la prophétie de Zacharie 9:9. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quelle humilité! Il vient accomplir la prophétie et le dessein de Dieu, sans chameau, sans caravane, sans trésor, sans escorte, sans bling-bling, juste accompagné de par ses disciples. Le Messie, le roi d'Israël, Dieu incarné, l'humilité incarnée, vient sur une monture ridicule, un ânon. L'ânon, par sa petitesse, symbolise l'abaissement et l'humilité du Christ, le mystère de la croix. Les vêtements, la foule étendit leurs vêtements sur le chemin comme s'ils déroulaient le tapis rouge. Ce geste, bien que rempli de bonne foi, vient à l'encontre du message du Christ. Jésus communique avec l'ânon un message d'humilité et d'abaissement. Un seul passage biblique évoque un tel comportement. Il s'agit de 2 Rois 9-13. Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sous Jéhu, en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent « C'est Jéhu qui est roi !» Jéhu, il faut savoir, était un mauvais roi, comme la grande majorité des rois, malheureusement. Il n'obéissait absolument pas à la volonté de Yahweh, mais faisait uniquement ce qui lui plaisait. Son règne était violent et sanguinaire. La foule imaginait probablement que Jésus se comporterait de la même manière que lui. Anéantir l'oppresseur. Hosanna, béni ce soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Que signifie cette acclamation? Nombreux sont ceux qui croient que Hosanna veut dire gloire à Dieu ou encore loué sois-tu. La fête des rameaux était une fête juive avant de devenir une fête chrétienne. Cette fête avait lieu le septième jour de la fête des cabanes, de l'hébreu Sukkot, aussi appelé le jour du grand Hosanna. À l'origine, c'était une fête païenne, une cérémonie ou un rituel pour demander de la pluie. Au premier millénaire, Hosanna est devenu une exclamation de joie, un synonyme pour dire bonjour, bienvenue. La phrase hébraïque Hosanna se trouve seulement et uniquement dans le psaume 118-25. Elle signifie « Sauve s'il te plaît ». C'est un cri de détresse à Dieu. Au fil des siècles, Hosanna, Hosanna cesse d'être un appel au secours et devient un cri d'espoir et de joie. On est passé de « Sauve s'il te plaît » à « le salut est arrivé ». Hosanna signifie donc « Hourra pour le salut, il vient, il est là, salut, salut ». Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'attendons-nous du Messie, du Christ? Attendons-nous qu'il vienne nous sauver, peut-être nous délivrer de nos ennemis, de nos peurs, de nos soucis, ou bien attendons-nous qu'il vienne nous bénir, nous donner de la prospérité? Qu'est-ce que nous attendons du Messie aujourd'hui? Quelle est ma conception? Quelle est notre conception de qui Jésus-Christ est et du pourquoi il est venu? Un Christ glorieux et triomphal. Un Christ rempli d'humilité, assis sur un ânon. Comment suis-je prête? Comment suis-je prêt à l'accueillir? De Corinthiens 12, 9 à 10, il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce texte est difficile à entendre, mais c'est un texte qui est tellement profond. Il est à l'antipode de ce que notre chair ou notre humanité désire. 1 Corinthiens 1,18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Jésus-Christ nous propose un chemin nouveau, un chemin étroit, un chemin d'amour, un chemin d'abaissement, un chemin d'humilité, un chemin de don de soi. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, rempli de gloire et de splendeur, entre à Jérusalem en tant que serviteur de l'humanité. Il s'est abaissé, humilié pour nous servir et nous donner un avenir, une filiation, un héritage, un nom et une vocation. N'est-il pas digne de suivre son exemple? Cette entrée à Jérusalem est un des innombrables exemples de cet amour extravagant. C'est une sorte de symbole. Les actes symboliques et les rituels sont essentiels. Les humains en ont besoin. Ils dictent nos vies, nos choix et donnent sens à ce qu'on vit et à ce qu'on croit. que ce soit d'ordre individuel, mais aussi en tant que nation ou en tant que communauté. Stéphane nous préparera après à prendre la scène. Pour nous, la scène est une symbolique profondément riche de sens. Tout comme le baptême par immersion est un symbole extrêmement fort et puissant. La symbolique des rameaux nous prépare à entrer pleinement et consciemment dans la semaine de la Passion. C'est également un temps propice pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je termine ce message avec deux versets bibliques. Matthieu 10, 7 à 8. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Hourra pour le salut. Il vient, il est là. Salut, salut. »